Vaste public, chers amis, chers complices du balado des décrypteurs, bienvenue à ce dernier tour de piste, ce chant du cygne, ce crépuscule de la troisième saison. C'est le dernier épisode, on vous le disait la semaine dernière. Toute bonne chose a une fin, mais c'est pas une fin, c'est pas un point final. Hein. On revient au mois de septembre, soyez rassurés, il n'y a pas de mystère là-dessus. On vous disait aussi qu'on vous réservait une petite surprise pour ce dernier épisode. Et puis là, Jeff a eu la merveilleuse idée de vous dire, essayez donc de deviner c'est quoi la surprise qu'on vous réserve. Comme toujours, vous êtes très, très imaginatifs, très perspicaces. Allons-y pour les propositions, un brin humoristique. Les décrypteurs vont annoncer leur propre crypto-monnaie lors d'un épisode spécial avec Elon Musk dans la nouvelle salle de bal de la Maison-Blanche. Un combat de la UFC sur la pelouse de Radio-Canada, sur les terrains de Radio-Canada. Une dégustation de poutine. Ça aurait été une bonne idée, mais c'est pas ça. Une autre personne nous dit « Changement du nom du balado qui s'appellera désormais officiellement La question se pose ». Pas bête, pas bête. On va y réfléchir. Un livre de recettes, pourquoi pas, nous dit une autre personne, c'est peut-être ça la surprise. Mon Bouddha qui va se mettre à parler, c'est pas le cas aujourd'hui. Et on termine avec les deux dernières hypothèses émises par nos fidèles auditeurs et auditrices. Le tapis rouge déroulé pour l'arrivée de Fanny Tan comme collaboratrice régulière. Une autre personne qui nous dit « Fanny Tan se joindra à votre balado dès septembre ». Non seulement ce ne sera pas en septembre, mais maintenant, et ce ne sera pas comme collaboratrice, mais comme décrypteuse. Oui, mesdames et messieurs, Fanny Tan est parmi nous. Salut Fanny!
Allô!
Tapis rouge!
Merci pour cette incroyable entrée, déroulement du tapis rouge. Ça fait super plaisir.
T'imagines vraiment. Le plaisir pour nous de te recevoir?
Merci.
Minimise pas ça.
Moi, je voulais vous dire, je pense pas que je vous l'ai déjà dit, mais le premier article que j'ai publié sur Internet, là, ever, je parlais des décrypteurs dedans.
Tu ne
vous as
jamais
dit
ça?
Non, je ne vous ai pas dit. Hein? Oui, c'était au début de la pandémie, c'était un petit blog que j'avais. Malheureusement, je pense que j'ai supprimé cet article-là parce que ce n'était pas mon meilleur. Mais je parlais de la vérification de faits, puis j'ai mentionné le travail des décrypteurs. Alors déjà, à ce moment-là, j'étais fan des décrypteurs. Donc, c'est incroyable d'être ici en ce moment.
Tout est dans tout. Parce que tu es déjà venu ici dans le balado à plusieurs reprises. Mais là, c'est ta chaise, Fanny.
Oui. C'est incroyable.
Comme tu dis, membre full patch, là.
Ouais.
Pas juste du balado, mais de l'émission.
Oui, c'est important
articles,
de l'écouter. Oui.
Temps plein avec nous autres, on est super contents.
Merci. Puis, mais merci de votre confiance, en tout cas. Puis vraiment, très hâte de continuer à collaborer avec vous. À travailler maintenant avec vous. Maintenant, on est au même bureau.
Oui, exactement. Nouvelle voisine de bureau.
Toutes les dynamiques de l'équipe.
Il y en a quelques-unes, hein. T'as vu ça?
Vas-tu survivre?
Mais donc. C'est une nouveauté, mais il y a aussi là-dedans la fin de quelque chose, ce trio de boys.
Ouais. Bonne chose.
C'est une bonne chose, ouais. Hein? Il fallait passer à autre chose. Mais Fanny, tout ça ne serait pas complété sans un petit ajout à ton arsenal. Là, je vois que tu as amené ton café ici. Mm-hmm. Que dirais-tu? Que dirais-tu de ceci? Alors là, je lui tends, pour ceux qui nous écoutent sur audio, une boîte en carton blanche à l'intérieur de laquelle se trouve une surprise, je ne sais pas laquelle. Vous allez voir ça. Et qu'est-ce que c'est, mesdames et messieurs? Décris-nous ce que tu vois.
Incroyable, c'est la tasse, la question se pose avec mon petit visage juste ici. Mais c'est trop mignon.
C'est un designer de renommée mondiale, nommé Alexis de Lancer qui a fait ça.
C'est toi qui l'as fait?
Oui, j'ai mon petit atelier ici en bas. Là.
Super, elle est vraiment belle, merci.
En passant, elle a fait ça en catastrophe hier.
En catastrophe, Jeff m'a dit « Hey, as-tu pensé à la tasse? » Oui, je fais ça. Fanny était juste à côté, on en parlait. Et puis, je suis allé chercher ça après le travail.
Je suis trop contente. Là, je fais vraiment partie de l'équipe maintenant.
Fait qu'écrivez vos messages de bienvenue dans les commentaires sur YouTube pour Fanny.
Et vous savez que Fanny, parmi ses champs d'intérêt, notamment la cybersécurité. Si vous avez déjà des questions tout de suite en partant pour Fanny à ce sujet-là, n'hésitez pas à le faire. Elle sera preneuse, n'est-ce pas, Fanny?
Absolument, avec grand plaisir.
On attend avec impatience ton message sur LinkedIn.
Oui, c'est vrai. Là, j'ai de la pression. Là. Je vais mettre tous les emojis possibles. Je vais mettre des petites fusées. Là.
Et je précise d'entrée de jeu, comme on le fait année après année, là, oui, le balado prend une pause pendant l'été, mais l'infolettre...
L'infolettre continue, ouais. Les articles vont continuer. C'est ça. Il y a du monde qui nous ont écrit pour dire... c'est plate parce que genre vous êtes ma source d'information pis tout. Ben si vous suivez l'infolettre, je sais que c'est pas la même chose que l'écouter sur YouTube ou sur Balado, Mais on va quand même continuer à vous informer de ce qui se passe dans le merveilleux monde du merveilleux monde.
Oui, c'est ça. Tu fais référence au message de la personne. Mais nous dit effectivement, vous êtes devenu ma source d'information principale. Contrairement à la plupart des médias, vous ne me rendez pas cynique, dit cette personne.
Je sais pas comment, mais tant mieux.
Tant mieux, on peut dire en quelque part, mission accomplie. Un été sans le podcast des décrypteurs, la question sur pause, nous dit une personne. Très bonne celle-là. Impossible, vous pouvez pas nous prendre de congé. Il en va de l'avenir de l'humanité, nous dit une autre personne. Et un autre qui apprécie. Ça, j'aime bien. Il décrit notre façon de voir les choses comme étant un optimisme découragé. Voilà qui est dit. Est-ce qu'on y va pour le menu de cet épisode? Premier épisode avec Fanny en guise de décrypteuse officielle. On est ravis. On va vous parler de ce projet de loi C-22. Les choses se passent. L'adoption du projet de loi, elle est placée sur la voie rapide avec en prime quelques amendements. La Maison-Blanche, pour sa part, ordonne et Anthropic obéit. Tout ça au nom de la sécurité nationale. Deux outils d'intelligence artificielle de la famille Mythos ont été désactivés. Peu de temps après l'épisode de la semaine dernière, on s'en rappellera. On vous parlera du fait qu'en Ukraine, les premiers cas d'assassinat par drone 100% autonome sont officiellement recensés, alors que le Pentagone, pour sa part, confirme l'utilisation de Grok dans des milliers de bombardements en Iran. On ira aussi d'un gros plan sur des exemples troublants de campagnes d'ingérence ou d'influence, c'est selon, d'influence étrangère menée en France, au Royaume-Uni. Est-ce que le Canada est à l'abri? Ah ben, pas du tout. Les fraudeurs misent gros en ce moment, sachez-le, soyez avertis. Misent gros sur quoi? Sur la Coupe du monde de soccer. Il y a beaucoup d'exemples. Soyons prudents et soyons surtout heureux parce que c'est parti pour le 108e épisode du Balado des décrypteurs. Au moment d'enregistrer cette merveilleuse conversation, le projet de loi C-22, qui doit faciliter, comme on sait, l'accès des forces policières à certaines données, ben, il n'est pas formellement adopté. Il est, par contre, sur la voie rapide, le fast track, c'est imminent. Fort de sa majorité, le gouvernement Carney a tout fait pour que ça se fasse vite, a tout fait aussi pour, si on veut, mettre de côté l'ensemble des débats parlementaires qui ont normalement lieu. On voulait couper court à tout ça pour aller vite avec cette adoption, Nicolas. Donc, allons-y avec ce qu'on sait du dossier à ce stade-ci.
Oui, bien, ce qu'on sait, c'est que la session parlementaire se termine le jour où ce balado sera mis en ligne, donc le 19 juin. Et on sait que le gouvernement voulait adopter la loi avant la fin de cette session parlementaire-là. Donc, mardi, ils ont déposé une motion d'attribution de temps, ce qui, en d'autres termes, là, on sait faire communément à ça comme un bâillon. Donc, on veut couper court ou du moins accélérer les débats pour rapidement faire adopter le projet de loi. Donc, d'habitude, il y a un examen des articles du projet de loi dans un comité parlementaire et après plusieurs semaines, on va faire une troisième lecture du projet de loi, on va ensuite l'adopter. Donc, hier, mercredi soir, jusqu'à passer minuit, là, on étudiait article par article le projet de loi, mais grâce à la motion qui a été adoptée mardi, il n'y avait pas de débat sur ces articles-là. Donc, il y avait des membres des autres partis qui étaient là, mais on ne pouvait pas débattre de ces propositions-là. Et entre-temps aussi, le gouvernement va comme introduire quelques amendements au projet de loi, mais ce sera en quelque sorte unilatéral. Donc, on va introduire des amendements. Il n'y aura pas de débat sur ces amendements-là, puis ils se retrouveront dans le projet de loi final qui sera adopté, en toute vraisemblance, vendredi. C'est les médias qui ont su c'était quoi ces amendements-là. Donc, il y a le Toronto Star qui a publié un article ce matin à ce sujet-là. Et les deux changements qu'on portera au projet de loi, c'est que les métadonnées que doivent retenir les fournisseurs de services électroniques, donc on le sait, géolocalisation approximative, qui communique avec qui, à quelle heure, des choses comme ça.
Pendant un an, c'est ça?
C'était un an avant, jusqu'à un an. Maintenant, ça ira à 6 mois.
Ah bon?
Donc, on va réduire ça de moitié. Et on dit qu'on va ajouter des protections plus claires, plus explicites pour les communications chiffrées. Donc, on le sait, le chiffrement, c'était au cœur du débat, au cœur aussi des contestations de ce projet de loi-là. On dit que ce sera ajouté également selon l'article du Toronto Star. Mais là, une fois que tout ça sera fait, une fois que le projet de loi sera adopté au Parlement, ça veut dire que le Sénat devra l'adopter également par la suite, la sanction royale, comme on dit. Mais on le sait, là, les enjeux avec ce projet de loi-là sont quand même assez grands dans le sens que tu as des entreprises comme Signal, l'application de messagerie chiffrée, tu as des fournisseurs de VPN aussi qui ont dit qu'ils quitteraient le pays si le projet de loi n'était pas amendé.
À cause de la question des portes dérobées, là, puis les craintes qui vont avec.
Voilà. Donc, le gouvernement pense que ces amendements-là seront suffisants, mais comme il n'y aura pas nécessairement de consultation avant de les adopter, mm-hmm. est-ce que ces entreprises-là seront satisfaites? Est-ce qu'elles vont quitter le pays? Est-ce que Apple va désactiver plusieurs fonctionnalités qui dépendent vraiment de bout en bout en raison de ce projet de loi-là? Ce sont des questions qui sont encore en suspens.
Donc, et qui se posent.
Et qui se posent. Et on voit que l'opposition, bien sûr, est furieuse. Il y a plusieurs députés du Parti conservateur qui se sont insurgés contre l'adoption rapide de ce projet de loi-là, contre le débat qui était coupé court. Des experts aussi en vie privée, comme Michael Geist, qui s'insurgeait sur les réseaux sociaux depuis quelques jours dans les médias également. Donc, les opposants ne sont pas satisfaits. On n'est pas non plus surpris. Le gouvernement a dit qu'il allait aller de l'avant de cette manière-là. Ils sont en train de le faire.
Salut, petite parenthèse, petite mise à jour. Comme on l'anticipait, peu de temps après notre enregistrement, le projet de loi C-22 a été officiellement, formellement adopté et amendé. Ça s'est passé jeudi. La période de rétention des métadonnées, qui passerait d'un an à 6 mois, ça c'est confirmé. Et puis, à part ça, selon des experts que Nicolas a consultés, le chiffrement de bout en bout est protégé, semble-t-il, de manière assez claire dans le projet de loi. Mais ça ne concerne pas d'autres types de chiffrement. Allons-y avec quelques exemples de services chiffrés de bout en bout. Il y aurait, ben, par exemple, Signal, Messenger, eMessage ou iMessage. D'autres exemples de services qui, cette fois-ci, ne sont pas chiffrés de bout en bout, ben, pensez à vos courriels ou encore vos SMS. Malgré tout ça, le directeur du programme Vie privée, surveillance et technologie de l'Association canadienne des libertés civiles, Tamir Israël, il a dit en entrevue à Nicolas que selon sa lecture du projet de loi C-22, il permettrait le projet de loi quand même aux forces de l'ordre de contraindre les fournisseurs de services à installer des outils parallèles d'extraction de données qui ont pour effet concret de contourner le chiffrement parce que le cadre juridique, selon lui, il est encore très large. En gros, lui et son organisation, c'est ce qu'on doit comprendre, sont très inquiets. Là. Bref, face à la mouture actuelle du projet de loi C-22, Nicolas a aussi lancé des perches à plusieurs entreprises de la tech qui ont déjà publiquement, ouvertement exprimé leurs appréhensions, des préoccupations qu'ils ont détaillées là, sur C-22 au cours des dernières semaines. La seule qui a répondu au moment d'enregistrer ou de mettre en ligne plutôt ce balado, c'est Meta. Un porte-parole de cette entreprise nous a dit que Meta est encouragé par les amendements, mais soutient, et je cite, que le projet de loi nécessite encore certains ajustements afin de répondre aux risques qui subsistent, notamment en ce qui concerne le chiffrement et l'imposition de l'utilisation d'outils de surveillance tiers. Fin de citation. En marge de tout ça, jeudi, en conférence de presse, le leader du gouvernement aux communes, Stephen McKinnon, a dit que les préoccupations du Parti conservateur à l'effet que C-22 accorde trop de pouvoir aux forces de l'ordre, mais que tout ça relève selon lui de la paranoïa et des théories du complot. Ce sont les termes qu'il a employés. Tout ce dossier est encore en développement. C'est sûr et certain, Nicolas attend toujours à ce moment-ci des réponses du ministère fédéral de la Sécurité publique. Sachez en terminant qu'il prévoit, Nicolas, publier un article à ce sujet qui sera disponible sur le site web de Radio-Canada et que vous pourrez aussi trouver en primeur dès samedi dans notre infolettre ainsi que dans la description de la version vidéo de notre épisode sur YouTube. Voilà, c'est dit, c'est précisé. On retourne à la discussion.
Et puis restons un petit peu dans le même univers, Nicolas. Toujours un projet de loi et toujours en lien avec la protection de la vie privée. Il y a le projet de loi 34, c'est ça, ou 36?
C'est 36. C'est 34 pour la vérification d'âge sur les réseaux sociaux.
Ça commence à être mêlant, Nicolas.
Oui, il y a beaucoup de projets de loi.
Une chance, c'est là pour
moi. Qui affectent notre vie numérique.
Oui, tout à fait. D'où l'insistance d'en parler. Projet de loi, donc, 34, Nicolas. Il y a du nouveau.
36. Ouais, écoute, c'est le gouvernement fédéral qui veut réformer les lois de protection de la vie privée. Tu sais, on parlait de C-22 avant, ouais. Ça concerne l'accès légal aux données. Ça faisait des années que plusieurs gouvernements successifs voulaient réformer ces lois-là. Sans succès, ils réussissent enfin à le faire. Et avec C-36, c'est un peu la même chose. On a vu le précédent gouvernement libéral qui voulait moderniser les lois de protection de la vie privée. Il y a des projets de loi qui sont morts au feuilleton et des projets de loi qui ne sont pas passés. Et là, le gouvernement Carney veut, une fois pour toutes, moderniser nos lois de protection de vie privée en ligne parce que les dernières lois là-dessus ont été adoptées au début des années 2000, donc l'an 2000 en fait, pour être exact. Ça fait assez longtemps que ces lois-là sont là, ils veulent les moderniser. Il y a plusieurs aspects à ça, certains plus nébuleux que d'autres. On veut notamment reconnaître la vie privée comme un droit fondamental. Selon plusieurs analystes et experts, dont l'Association canadienne des libertés civiles, c'est un peu, de dire ça, ça ne change pas grand-chose, mais on le statue quand même dans la loi. Là. C'est symbolique plus qu'autre chose. Et ce qui est particulier aussi dans les communications du gouvernement, c'est qu'on dit que cette éventuelle loi-là, c'est un pilier de la stratégie nationale en matière d'intelligence artificielle du Canada parce que les Canadiens n'adopteront pas les services numériques ou l'IA avec confiance à moins d'avoir l'assurance que leur vie privée est protégée. Donc, tout ça,
on présente ça comme un bien en soi d'adopter l'intelligence artificielle.
C'est ça. Donc, pour s'assurer que les gens adoptent l'IA, on veut qu'ils aient confiance que leur vie privée sera protégée à travers ces outils-là. C'est un peu ça le discours. Puis c'est un peu ça aussi qui est dénoncé par l'Association canadienne des libertés civiles qui ont réagi assez fortement à ça. Mais il y a quand même plusieurs avantages concrets avec cette nouvelle loi-là, notamment que les gens auront le droit à la suppression de leurs données. On va mieux protéger les données personnelles des enfants, notamment. Et on aura aussi une définition de ce que sont les données personnelles. Donc, ce sera vraiment codifié dans la loi. On parle des données de santé, les données génétiques, les données biométriques, l'ethnicité, les convictions politiques et religieuses et l'orientation sexuelle. Donc, ça, c'est seulement quelques aspects de tout ça. Les gens seront aussi en mesure de demander quels renseignements ont été utilisés dans une décision automatisée, donc par des systèmes d'IA, et demander une révision si jamais les renseignements utilisés n'étaient pas à jour. Et il y aura une plus grande transparence dans la manière dont les entreprises se servent de renseignements personnels. Par contre, ce que dénonce aussi l'Association canadienne des libertés civiles, c'est que même s'il y a des améliorations quant à la manière dont les données personnelles sont utilisées, il y aura plusieurs exemptions pour les entreprises si on peut démontrer que c'est nécessaire de conserver ou d'utiliser ces données-là. Donc, selon cette association-là, on donne plusieurs exemptions finalement aux entreprises privées. Donc, c'est un peu un pas de l'avant, deux pas en arrière. Et surtout, ce qu'on apprend avec ça, c'est que la fameuse commission dont on parlait...
Oui, la semaine dernière, là, qui va être à l'automne prochain, va finalement aboutir. Oui,
cette commission canadienne de la sécurité numérique qui est censée être responsable de mettre en place la vérification d'âge sur les réseaux sociaux notamment, elle change de nom.
Ah bon?
Elle sera la Commission canadienne de la sécurité numérique et de la protection des données. Donc, le commissaire à la vie privée du Canada ne sera plus responsable de mener des évaluations de protection de vie privée pour les entreprises privées. Il va encore le faire pour le secteur public, mais pour le privé, ce sera la commission, cette même commission-là, qui sera en charge. Donc, on aura une espèce de super régulateur de la vie en ligne au Canada. Ce qui est dénoncé par des experts, encore une fois, comme Michael Geist, qui dit qu'on met beaucoup, beaucoup de pouvoir entre les mains de cette commission qui n'est pas élue, qui est nommée tout simplement par le gouvernement pour appliquer des lois. Donc, cette commission-là, vraiment, aura un très, très grand pouvoir. Ça va changer beaucoup la manière dont notre vie numérique est réglementée.
Ben, c'est important de le souligner. Pauvre Michael de Stancy.
Ah, il se tire.
Moi, je suis sur X, puis à chaque jour, il y a eu une semaine haute en émotion.
Une trinité d'experts en vie privée canadiens qui vraiment, là, depuis quelques mois, sont en train de s'arracher les cheveux. C'est Michael Geist, c'est Robert Diab également, et c'est David Fraser, qui sont trois avocats en vie privée très en vue, qui se montrent très critiques quand même de plusieurs des initiatives du gouvernement. Mais vraiment, c'est eux qui comprennent le mieux ces lois-là, je pense, parce qu'ils passent leur temps
Comme tu dis, de plusieurs projets de loi. Je peux imaginer que pour le public aussi, c'est mélangeant. Les projets de loi au Canada, ça a des chiffres, tu sais. C-34, C-36, C-22. Tu commences à perdre le fil de qu'est-ce qui réglemente quoi, qu'est-ce qui fait quoi. Puis ça arrive tout en même temps. Puis dans le cas de C-22 aussi, on essaie de couper le débat. Donc, je me demande vraiment comment c'est perçu dans la population.
Oui, surtout que dans le cas de C-22 notamment, il y avait un gros problème de clarté. Hein? Ça a été long avant qu'on ait un portrait clair. L'est-il maintenant plus? En tout cas, je devais le dire. Ah, oui, la question se pose. Voilà pour ça. Comment on se compare avec l'étranger? C'est un peu ça aussi toujours la question. Au Royaume-Uni, dans certains de ces aspects-là aussi, on a légiféré, Nicolas.
Oui, au Royaume-Uni, on a déposé un projet de loi où est-ce qu'on va interdire les réseaux sociaux aux moins de 16 ans. Donc, on voit vraiment une espèce d'effet domino partout dans le monde depuis l'Australie en décembre 2025. Donc, le Royaume-Uni est le prochain pays à légiférer là-dessus. est applaudi par plusieurs autres pays qui font la même chose. On voit que le Danemark qui a passé une loi pour les moins de 15 ans, la France pour les moins de 15 ans, l'Allemagne moins de 16 ans, Indonésie, il y a une tonne de pays, dont le Canada. Dans le cas du Royaume-Uni, ce qui est intéressant, c'est qu'on veut aussi désactiver les fonctionnalités intimes de robots conversationnels. Donc, on ne veut pas que les moins de 16 ans entretiennent des relations intimes avec des chatbots. Au Canada, c'est un peu plus... c'est un peu moins étroit. Disons, on ne veut pas que les robots conversationnels se fassent passer pour des humains. C'est un peu plus nébuleux, alors qu'au Royaume-Uni, on est vraiment comme... C'est assez clair. Là. On ne veut pas que les robots conversationnels entretiennent des relations avec les gens. Donc, voilà, on voit qu'il y a un autre,
mais
un autre
intime, pays qui se joint. Ça sous-entend romantique ou amical?
Romantique et sexuel, okay. Selon ce qui est dit dans ce projet de loi.
Ça alors peut être nos amis.
Je pense que oui. Je pense que oui.
OK.
Au Canada, on parle plutôt d'encourager l'utilisateur par l'emploi de techniques d'engagement manipulatrice à former ou à maintenir un attachement émotionnel qui pourrait l'encourager à se replier sur soi ou perdre le contact avec la réalité. Donc, c'est un peu moins...
C'est vague, quand même.
C'est un peu plus vague.
Ouais.
Ben, c'est quand même très... Ouais. C'est très subjectif. Dans le fond... Je veux dire, ChatGPT qui utilise un ton plus joyeux, qui dit « je peux t'aider avec ça » ou quand tu parles d'un problème dans ta vie, qui dit « je comprends, je ressens tes émotions », est-ce que ça entretient un repli sur soi? Je sais pas.
C'est flou parce qu'on dit aussi au Canada que le robot ne peut pas se faire passer pour un être humain d'une manière qui pourrait porter l'utilisateur à croire qu'il s'agit d'un être humain. Mais si le robot... Oui. Entretient cette relation-là avec toi, mais il dit en passant chez une IA, c'est-tu suffisant? La commission va décider. C'est eux qui décident comment appliquer les lois.
Encore la commission?
Ben oui.
Hey, grosse commission.
Gros pouvoir. En tout cas, voilà pour cette commission. Voilà pour ce tour d'horizon à saveur législative. Merci, Nicolas.
Mais j'ai pas vu aussi, excuse-moi, mais en Grande-Bretagne, ils songent aussi à bloquer les VPN, d'après ce que je comprends.
C'est pas dans la loi en tant que telle, mais c'est quelque chose qui revient souvent dans les discussions, comme en Australie, ça a un peu été évoqué, comme « Ah, ben les gens utilisent les VPN pour contourner ça. »
Donc on bloque
les VPN.
On devrait
peut-être bloquer les VPN. Il y a rien qui a été adopté à cet effet-là, mais c'est quelque chose qui finit par rentrer dans les conversations éventuellement.
Bon, mais voilà pour ce tour d'horizon législatif à saveur législative. Merci, Nicolas.
Toujours léger.
Toujours léger, n'est-ce pas? Prends une petite gorgée d'eau.
Ouais.
OK, on va poursuivre maintenant avec Mythos.
Hein?
Mythos, on vous en parlait la semaine dernière, des derniers modèles, les deux derniers qui ont été rendus disponibles de façon restreinte, plus ou moins restreinte pour un et plus large pour l'autre, Mythos 5 et Fable 5. Jeff en avait testé un des deux. Jeff avait été finalement parmi un des derniers à le faire. Hein?
Ça n'a pas duré longtemps.
L'entreprise a fait volte-face, elle a obéi, optant à la Maison-Blanche. La Maison-Blanche qui a invoqué la sécurité nationale pour ordonner le blocage de l'accès, finalement, total à tout ça. L'accès a été brutalement désactivé par Anthropic.
Donc, selon le Washington Post, ouais, c'est la chicane dure depuis un certain moment là, à propos de Mythos entre le gouvernement américain et Anthropic. Paraît-il que... Bon, on sait qu'Anthropic a donné accès à ce modèle-là à plusieurs acteurs avant de donner accès au public. Il aurait donné accès à une compagnie en Corée du Sud qui, là, l'administration Trump suspecte d'être proche de la Chine. Et donc, on a vu ça comme potentiellement un enjeu de sécurité publique. Il y a aussi, au cours du week-end dernier, Amazon qui ont trouvé une faille de sécurité dans Fable 5, ont contacté l'administration Trump et l'administration Trump a donné... 30 minutes Anthropic de révoquer l'accès à Fable à toute personne qui n'est pas citoyenne américaine.
Wow.
Et ça affectait des employés d'Anthropic eux-mêmes. Là, ils ont des employés,
en
même s'ils sont aux États-Unis, qui ne sont pas citoyens américains. Donc, Anthropic a décidé de tout simplement là, révoquer l'accès à tout le monde. On a appris un peu plus sur cette faille de sécurité-là, parce qu'on vous en avait parlé la semaine dernière. Fable refusait d'essayer de trouver des failles dans le code, par exemple, d'exploiter des failles de sécurité. Le contournement de ces garde-fous en question-là, ce serait que, bon, des employés d'Amazon ont donné du code où il y avait des failles dedans, là, par exprès, pour essayer de tester Fable. Ils ont dit, essaye d'exploiter ces failles-là. Fable, bien sûr, a dit non, je ne peux pas faire ça. Puis là, ils ont juste dit, ben fix this code, donc répare ce code-là. Puis le Fable a dit, ah oui, c'est beau, j'ai trouvé des vulnérabilités là-dedans.
Wow.
Donc, super facile à contourner. Et c'est, bon, c'est ça qui a été utilisé comme justification pour évoquer l'accès à Fable 5. Je dois dire, par contre, il y a un aspect politique à ça. On sait, là, Anthropic et l'administration Trump, bon, c'est pas les meilleurs amis. On a d'ailleurs vu cette semaine, il y a eu une rencontre entre les principaux représentants des entreprises d'IA et des acteurs politiques comme Donald Trump.
Cohere était là.
Cohere était là, bien
en
sûr.
Fait.
Oui.
Encore Cohere.
Et beaucoup de gens ont remarqué que Sam Altman était assis aux côtés de Donald Trump, mais Dario Amodei, le PDG fondateur d'Anthropic, était de l'autre côté de la pièce. Mais on s'entend, là. Il y a un petit problème, là. Il y a une mauvaise relation entre Anthropic puis l'administration Trump. Puis ça va, je pense, plus loin que juste cette question-là là, de faille de sécurité ou d'avoir donné accès à une entreprise en Corée du Sud. Là. Disons que c'est l'aboutissement là, d'une mauvaise relation entre les deux entités.
Ce qui est quand même particulier, parce que l'administration Trump avait entamé son mandat en disant « Nous, l'IA, là, on va pas se mettre à jouer là-dedans. On va laisser libre cours à nos grands fleurons américains de l'IA » en faisant finalement table rase de ce qu'avait fait le gouvernement précédent de M. Biden. Mais là, c'est le contraire. Beaucoup d'interventionnisme qui se fait en ce moment-là.
Ben, c'est qu'ils aiment pas que Anthropic, bon, c'est toujours donné l'image de l'entreprise d'intelligence artificielle responsable qui a des grandes valeurs humanitaires, qui refuse là, d'obtempérer à toutes les demandes, par exemple avec des armes automatisées par l'intelligence artificielle. Puis ben, le gouvernement américain, leur posture avec ça, c'est comme ben, si vous faites des contrats pour nous, pour le département de la défense, c'est pas vrai que vous allez mettre des garde-fous selon vos propres valeurs et non nos demandes. Donc, il y a une petite chicane entre les deux depuis un bout. Puis ça, ben, ça fait énormément mal à l'image de marque d'Anthropic parce qu'ils lancent leur nouveau modèle qui est super puissant puis que beaucoup de gens avaient commencé à utiliser avec émerveillement. Puis là, trois jours plus tard, plus personne n'a le droit de l'utiliser. D'ailleurs, je parlais de mon expérience la semaine dernière, puis je suspectais que ça avait coûté très cher l'invite que j'avais envoyé. D'après ce que j'ai vu, ça aurait potentiellement coûté quelques centaines de dollars pour une seule invite. Wow. Donc, c'est le rapport que Fable m'avait donné, c'était impressionnant, mais est-ce que ça vaut quelques centaines de dollars? Je pense... en tout cas, personnellement, j'aurais pas payé ce prix-là. Mais... comme on vous disait, extrêmement onéreux là, comme système d'intelligence artificielle.
Ben voilà pour Anthropic. En parlant de toujours dans le même giron, ChatGPT, des chiffres un peu inquiétants.
Ouais.
Un peu inquiétant pour OpenAI, oui.
Ouais, notre ami Ed Zitron, le journaliste indépendant, très, très critique d'intelligence artificielle, a obtenu des documents financiers d'OpenAI. Ça a été validé par le Financial Times. En gros, OpenAI aurait perdu 5 milliards de dollars américains en 2024, 39 milliards en 2025, une somme énorme. Il faut quand même préciser que c'est en partie dû à cause du changement de vocation d'OpenAI qui était anciennement à but non lucratif, qui s'est transformé en entreprise à but lucratif. Donc, tu sais, ça donne une image là, des pertes de l'entreprise qui est un peu déformée par ce changement de statut-là. Une chose que je trouve intéressante, par contre, là, c'est que la recherche et le développement, ils ont dépensé 19 milliards de dollars. Donc, l'entraînement des modèles, une somme absolument colossale. Ils ont dépensé près de 6 milliards en marketing aussi. Je ne sais pas si vous avez vu énormément de pubs. Le Super Bowl, c'est vrai, mais 6 milliards. Puis aussi, je trouve ça intéressant aussi. Donc, ils ont envoyé 17 milliards de dollars à Microsoft. Donc, on suspecte que c'est pour la fameuse, le fameux pouvoir de calcul, donc pour faire fonctionner les modèles d'OpenAI sur l'infrastructure d'infos nuagiques de Microsoft Azure, donc pour l'entraînement ou pour faire fonctionner les modèles. Encore là, des sommes colossales. Donc, OpenAI pas prêt d'être profitable, pas pour le moment.
Eh bien voilà, certains diraient que c'était une évidence. On verra si cette tendance se poursuit. Bien évidemment, on reste toujours dans le domaine de l'IA. Peu surprenant de voir que de plus en plus, l'industrie de l'armement se tourne vers l'intelligence artificielle. Mais ce qui n'est pas simple de faire, c'est de déterminer avec précision quel usage en est fait. Il y a un exemple qui nous vient en tête tout de suite, les drones. Qu'en est-il des drones qui ont été très présents dans le conflit en Ukraine depuis 2022? Parmi les flottes de drones qui sortent des usines, quelle proportion et finalement concerne des drones entièrement autonomes? C'est une question que je me pose, mais une chose est certaine, Fanny, il y a déjà un premier cas confirmée d'utilisation de drones pour l'assassinat de personnes en situation de conflit, là.
Oui, absolument. Dans le magazine Le New Scientist, il y a quelques jours, il y a une entrevue avec un commandant de l'armée ukrainienne qui a révélé que pour la première fois dans tous les conflits, là, on a un cas de, d'assassinat de soldats russes avec des drones qui sont entièrement automatisés. Donc ça, ça a été révélé il y a quelques jours, mais cette frappe-là sur ces soldats russes a été faite il y a 2 ans à peu près. C'est juste que c'est la première fois qu'on en entend parler, c'est il y a quelques jours seulement. Et on sait depuis longtemps que la guerre en Ukraine, c'est une guerre de drones, beaucoup. On sait que le rôle des drones est extrêmement important dans la guerre en Ukraine. On sait aussi que ça fait un bout maintenant que les drones sont automatisés de plus en plus, entre autres grâce à l'IA. Mais c'est vraiment la première fois qu'on voit un drone entièrement automatisé qui donc décide par lui-même de tuer un être humain. Et évidemment, ben, ça pose des questions éthiques assez importantes. Parce que c'est ça, avant, il y avait toujours eu un humain dans la boucle. Et là, on a, pour la première fois, il y a 2 ans, enlevé l'humain dans la boucle. Et ce que ça signifie vraiment, c'est qu'on franchit une étape majeure dans la guerre où le jugement humain pourrait devenir complètement optionnel dans la décision de tuer des êtres humains en temps de guerre. Et le commandant ukrainien qui a été interviewé dans The New Scientist dit que l'Ukraine respecte le droit international humanitaire et prend très au sérieux sa responsabilité de garantir les droits de tous les combattants. À ce jour, il n'existe pas de loi internationale ou d'interdiction officielle à l'échelle mondiale sur l'utilisation de ce qu'on appelle des systèmes d'armes autonomes létales ou des drones tueurs, là, parce que c'est surtout sous la forme de drones aujourd'hui. Mais on voit une mobilisation assez importante contre ce degré d'automatisation de la guerre depuis au moins 2025. Surtout que la guerre en Ukraine est beaucoup vue comme un laboratoire d'innovation. Il y a beaucoup de compagnies en Occident, aux États-Unis, mais un peu partout en Occident, qui participent d'une manière ou d'une autre à cette guerre-là. On parle d'une guerre qui... on parle de la start-upisation de la guerre, entre autres.
Quelle expression dystopique.
Incroyable. Oui, on en est là, man.
À la mi-mai 2025, il y a eu pour la première fois une première session à l'Assemblée générale des Nations unies sur la question des armes autonomes légales. Et il y a des représentants de 96 pays et plusieurs organisations comme le Comité international sur la Croix-Rouge qui se sont exprimés sur la question des armes complètement autonomes. Déjà, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, appelle depuis des années à l'interdiction de ces armes qu'il qualifie de politiquement inacceptable et moralement répugnante. Donc, c'est pas peu dire. Et il y a plusieurs pays comme l'Algérie qui disent que ces systèmes remettent fondamentalement en cause le droit à la vie en supprimant le jugement humain des décisions relatives à l'usage de la force létale. D'autres pays aussi, comme l'Autriche, le Costa Rica, le Salvador, qui s'inquiètent du vide juridique en matière de responsabilité, ou le fameux accountability gap qui vient avec ces frappes létales de systèmes autonomes. Parce qu'on se pose la question, si jamais on a un système complètement autonome par intelligence artificielle qui se trompe, qui frappe des personnes civiles, qui tue des civils, ben à qui revient la responsabilité de ces assassinats-là? T'sais, est-ce que c'est le commandant de l'armée? Est-ce que c'est l'armée? Est-ce que c'est le développeur de la technologie? Donc, il y a ce risque aussi qu'il y ait une certaine diffusion de la responsabilité avec des armes comme ça.
Oui, puis des armes qui peuvent tomber entre les mains de toutes sortes d'acteurs. Et puis là, encore une fois, on voit un exemple où les lois internationales tardent à être actualisées face à une technologie qui se développe très vite et dont l'usage se répand de plus en plus. Il va falloir faire vite là, pour encadrer tout ça.
Absolument, parce que en dehors de ces personnes qui sont quand même mobilisés contre l'usage de ces armes complètement autonomes, de ces armes létales complètement autonomes, il y a quand même certaines personnes qui sont pour. Dans le magazine The New Scientist, ben, la personne, le développeur du drone tueur, lui, évidemment, était pour. Là, ça lui rapporte quelque chose.
J'imagine.
Mais il y a aussi le ministre des Forces armées britanniques, Al Carnes, qui, lui, plaide aussi pour qu'on permette l'utilisation des systèmes autonomes dans des circonstances exceptionnelles, en disant que ben, on devrait avoir la possibilité d'ôter l'humain du processus décisionnel lorsque nécessaire, parce que nos ennemis, eux, ne vont pas s'embarrasser de garder l'humain dans la boucle comme nous, on le fait. Donc, c'est le fameux dilemme de sécurité où ce que l'augmentation des capacités létales d'un État va insécuriser un autre État. Et là, ça fait juste une escalade de violence.
C'est ça, c'est l'escalade de la suite.
Parce que je lisais l'article, je trouvais ça frappant comme image, parce qu'il expliquait comment c'est arrivé cette attaque-là au drone. Puis carrément, l'armée ukrainienne a dit, regarde, cette zone-là, tuez tout ce qu'il y a là. C'est juste des Russes qu'il y a là. Tuer tout. Puis, les drones n'avaient même pas de caméra pour voir qu'est-ce qu'ils faisaient. Il a fallu qu'ils constatent les kills, les attaques par la suite avec d'autres drones. Ils sont allés voir. Ah oui, ils ont fait exploser un tank. Ah oui, ils ont tué une personne. Donc, il y avait absolument. Je veux dire, quand on parle de pas d'humain dans le loop,
c'est zéro.
Il y avait absolument zéro. Là. C'était va là, puis tue tout ce qui est là. Voilà la nature de cette attaque-là qui est absolument dystopique. Excuse, deuxième fois que j'utilise ce mot-là.
Ben non, écoute, on peut l'utiliser à toutes les sauces tout au long de la conversation, notamment quand on pense à Grok aussi, qui est utilisé par le Pentagone. C'était le cas dans le contexte du conflit en Iran. On parle ici de milliers et de milliers de bombardements qui sont liés à l'utilisation de Grok.
Oui, donc le gouvernement américain qui a dû admettre sous serment que le robot Grok a été utilisé pour lancer 2000 missiles en Iran. C'est dans le cadre d'une poursuite qu'il y a au Mississippi. Donc, il y a un groupe de défense des droits des personnes noires qui essaie de bloquer le développement du centre de données Colossus qui appartient à XAI à South Haven, au Mississippi. On sait là que le système électrique aux États-Unis n'arrive pas à fournir assez d'énergie pour ces centres de données-là. Puis pour Colossus, ils ont décidé de mettre sur pied des turbines
de gaz.
Qui brûlent du gaz. Ouais, là, puis ça crée de la pollution et donc ça pollue la ville de South Haven qui est à forte majorité noire. Et donc on allègue que ça nuit à ces personnes-là. Puis le gouvernement américain dit non, on ne peut pas bloquer ça. C'est une infrastructure qui est nécessaire pour mener à bien la campagne américaine, notamment en Iran.
Et bien sûr, c'est pas près de Santa Barbara en Californie, là. Hein? Tout cas.
Justement, parlant des Américains en Iran, puis quand on parle du fameux human in the loop dans les systèmes d'IA, on sait qu'il y a eu l'attaque sur l'école Aminab, qui a tué plus de 150 en fait, étudiantes qui allaient à cette école-là. Puis même là, il y a plusieurs analyses qui ont trouvé que ça c'était très probablement une cible qui avait été choisie par un système d'intelligence artificielle. Et là, il y avait quand même un humain dans la boucle, mais je veux dire, c'est pas...
Il y a différents degrés d'automatisation, mais ça reste quand il y a un... En anglais, on appelle ça le offloading cognitif aussi. Là. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Là. Excusez-moi.
Délestage cognitif.
Puis en quoi ça consiste, Fanny?
C'est le fait que plus qu'on utilise des outils d'intelligence artificielle qui prennent des décisions à notre place, moins que nous, on est habitué à réfléchir. C'est comme moi avec un GPS.
ça donne une illusion de sécurité qu'un humain soit dans la boucle, là, dans bien des cas comme ça, ça ne serait pas empêché que ça arrive.
T'sais, c'est aussi un délestage émotionnel à un certain sens. Il y a 100 ans, quand il fallait que tu tues quelqu'un, il fallait que tu tires dessus, il fallait que tu le vois la personne. Là, on est allé vers des bombardements, que tu lances une bombe sur un village, tu ne sais pas où est-ce que ça arrive. Tu avais les drones au début des années 2000 où tu avais un opérateur qui devait regarder l'étendue des dégâts qu'il provoque. Puis là, t'as des drones qui... tu pèses un bouton, le drone s'en va, puis t'as plus besoin de voir, d'avoir de connexion émotionnelle à l'acte que tu viens de poser.
Désensibilisation, finalement, assez accélérée. Ouais, totalement. J'avais demandé aux gens, donnez-moi, choisissez un mot pour définir notre époque. Et puis là, avec tout ce qu'on vient de dire, ça alimente pas mal de réflexions. Alors, les suggestions des personnes qui nous ont envoyé ça, c'est disponible dans la section des commentaires dans l'épisode de la semaine dernière. Il y en a une qui nous dit, funeste. Une autre qui nous dit « accélération » parce que tout va plus vite, plus fort. On était à cette époque-là, effectivement. Une autre qui nous dit « épique », une autre « merdique », l'autre « dystrophique ». La dystrophie, c'est le trouble résultant de la nutrition déficiente d'un tissu ou d'un organe. Puis elle dit la nutrition déficiente en ce moment, c'est celle de l'intellect par l'IA, avec des conséquences sur la société qu'elle n'a pas encore mesurées ou comprises. Merci pour ces suggestions d'épithètes et d'adjectifs pour qualifier cette merveilleuse époque dans laquelle on baigne, on se trouve. Ça va bien aller, ne vous inquiétez pas. Surtout avec la prochaine discussion, qui va sûrement vous remonter le moral et vous faire voir les choses de façon tout à fait rose. On vous parle de ces campagnes d'influence ou d'ingérence opérées depuis l'étranger. Il y en a plusieurs, évidemment, plusieurs itérations dont on parle d'épisode en épisode. Mais cette fois-ci, il y a quand même des cas dont on voulait vraiment vous parler. Il y a un cas qui concerne la France, un autre le Royaume-Uni et le Canada, vous allez le voir, avec un autre cas qui date, mais quand même, qui est toujours d'actualité, vous démontrera à quel point on n'est pas ici à l'abri de tout ça. Commençons par le cas français. C'est une action coordonnée qui a pris pour cible le parti politique La France insoumise, LFI, de la gauche, gauche radicale, diront certains. C'était dans le contexte des dernières élections municipales. Les infos qui nous permettent d'en parler proviennent du service de vigilance et de protection contre les ingérences numériques étrangères. Est-ce que ça démontre, c'est l'existence d'un écosystème inauthentique de sites bidons et de comptes de réseaux sociaux qui visent à court-circuiter le débat public. Et c'est vraiment important de décortiquer un peu ce à quoi ça ressemble.
Oui, donc c'est un rapport de Viginum, justement, qui a été publié jeudi dernier. Donc, on n'a pas pu en parler au balado, c'est arrivé pendant qu'on enregistrait, mais en gros... On lit ça à une entreprise israélienne qui s'appelle Blackcore, une entreprise assez mystérieuse qui se targue de faire des opérations d'information comme ça. Puis comme tu disais, ça servait à nuire à trois candidats en particulier de LFI dans les villes de Marseille, Toulouse et Roubaix. C'est assez fou les opérations menées. Il y a eu création de blogs qui accusent ces candidats-là là, des accusations d'agression sexuelle, voire même de pédophilie, des fausses campagnes de levée de fonds pour des organismes qui viennent supposément en aide aux enfants en Palestine. Ils ont créé un faux site web d'une organisation musulmane qui dit aider les musulmans à trouver des candidats qui les représentent mieux. Puis là, ben, on mentionnait ces candidats-là de LFI. Oui. Donc, on essaie de dire aux gens, là, les musulmans aiment ces candidats-là. Ils ont même fait un faux groupe salafiste qui faisait la promotion là,
de la France insoumise.
De la France insoumise et de ce site web-là qui aidait à trouver des représentants. Ils ont créé un faux groupe d'extrême droite, Renaissance catholique nationale, qui dénonçait ce site-là, le musulman qui a aidé à trouver des candidats, des comptes TikTok, la grosse opération d'influence. Puis on joue là, sur tous les côtés là, sur le chaos informationnel. On s'est rendu compte aussi que le compte TikTok de Renaissance catholique nationale, donc un groupe supposément d'extrême droite en France, ben, le compte TikTok avait été renommé. Puis à l'origine, c'était un compte irlandais qui diffusait des narratifs anti-musulmans puis anti-immigration.
Donc, ça avait été utilisé
en Irlande.
Dans un autre contexte.
En Irlande, oui. Mmh. Ouais. Puis, ce qui est très intéressant, là, c'est qu'ils ont pu connecter ces faux comptes-là qui faisaient la promotion de ces sites-là à d'autres opérations d'information dans d'autres pays. Donc, ces faux comptes-là ont aussi relayé des publications d'Andrew Cuomo, qui était un candidat à la mairie de New York, qui était l'opposant à l'actuel maire Zoran Mamdani. Puis on sait là, que Zoran Mamdani critique d'Israël, donc on essaie potentiellement de faire la promotion de son opposant. Il y a même eu, ces comptes-là ont aussi potentiellement se sont mêlés d'une campagne pro-gouvernement en Angola. Donc on parle vraiment de quelque chose qui est vaste. Malgré ça, rapport de Viginum dit que tout ça, ça a eu une incidence relativement mineure. Là. Tu sais, c'était pas des publications qui étaient extrêmement virales, vues par des millions de personnes, mais quand même assez sophistiquées. Puis on voit encore une fois, puis on voit souvent ça dans des tentatives d'ingérence étrangère, de jouer sur des tensions, puis des deux côtés, pour que les gens sachent plus où donner la tête. Puis dans le fond, le seul message qui en sort, c'est que il y a des tensions, puis que tout va mal, puis que les gens ne savent plus quoi croire, dans le fond.
Voilà pour le cas français. Parlons du cas britannique maintenant, qui est assez troublant. Merci. D'autant plus qu'il vient avec à la clé des actions concrètes qui ont été posées. Et la personne ciblée, c'est le premier ministre actuel. Certains de ses biens ont été donc visés par une action, encore une fois, coordonnée, mais qui est d'une autre nature, Jeff.
Oui, donc c'est l'année dernière qu'il y a trois ressortissants ukrainiens en Grande-Bretagne qui ont été arrêtés pour des incendies criminels qui étaient lié à Keir Starmer, le premier ministre britannique. Bon, il y a une auto qui lui appartenait anciennement qui a été incendiée, mais aussi des maisons qui étaient liées à lui. Deux des Ukrainiens ont été trouvés coupables. Puis ce qu'on apprenait pendant le procès, c'est qu'il avait été recruté par une personne qui s'appelait EL sur Telegram, qui les avait rémunérés pour mener ces attaques-là. Et que même ces hommes-là ne savaient pas trop ce qu'ils faisaient. Il semblait pas savoir c'était qui Keir Starmer.
Il voulait juste l'argent.
C'était juste comme, regarde, va là, puis brûle ça, ou va là. Puis... Donc, le but était pour faire de l'argent et non pour des visées politiques. Puis là, ben, l'enquête de BBC a permis de démontrer, ou en tout cas, suggère très fortement que le fameux EL sur Telegram, ben, ça serait Evgeny Lyukshin, qui est le fils d'un diplomate russe. Ils ont pu voir son opération dans plusieurs groupes Telegram. Et puis là, ça, ça dépasse seulement là, ce qui a été démontré en cours. Là aussi, il y a eu la création de faux groupes musulmans. Mmh. Là aussi, ils ont payé des gens pour aller faire des graffitis anti-immigration, anti-islam en Grande-Bretagne. Ils ont même payé des gens pour mettre une affiche anti-musulman provenant supposément d'un groupe hindou pour attiser les tensions incroyable. Entre ces groupes-là en Grande-Bretagne. Donc, encore une fois, on joue sur tous les côtés. Mm. Encore une fois, on essaie de semer le chaos en misant sur des divisions sociales qui étaient déjà présentes en Grande-Bretagne. Mais on voit que les visées, là, c'est vraiment juste de semer le chaos total. Il y a eu des campagnes de désinformation aussi. Mm-hmm. On a fait la promotion de Tommy Robinson, qui est un prédicateur ultranationaliste très connu sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, ils l'ont piégé avec de la désinformation. Donc, quand les Ukrainiens se sont fait arrêter en Grande-Bretagne, il y a des faux comptes russes qui ont émis l'hypothèse que c'était des travailleurs du sexe qui étaient là pour Keir Starmer. Puis là, ben, lui, il a repris ça, Tommy Robinson a repris ça sur X en disant « Regarde, Keir Starmer, il a été pris sur le fait avec des escortes masculines. » Bref, donc, ça joue quand même dur, ces opérations-là.
Oui, ça joue dur. Et puis, j'ai bien hâte de voir ce qui s'en vient. Hein. Midterms aux États-Unis, l'élection présidentielle en France en 2027. Au Canada, on n'est bien sûr pas à l'abri de tout ça. Fanny, il y a des exemples pas si lointains quand même qui nous le rappellent.
Effectivement. Ben, chaque année, on voit des campagnes de désinformation, des campagnes de manipulation de l'information de certains États dont on pense souvent aux mêmes, là, la Chine, la Russie, mais Israël a fait des campagnes de désinformation au Canada depuis quelques années. Là, on en voit depuis au moins 2024. Puis encore une fois, c'est pas, comme Jeff, tu disais, c'est pas des campagnes qui sont nécessairement, qui ont un impact de fou. Là. Faut plus le voir comme des tentatives d'ingérence ou des tentatives d'influence, au moins, si c'est pas de l'ingérence, de l'influence. En 2024, il y avait une firme israélienne qui s'appelle Stoic, qui était basée en Israël et qui était une compagnie aussi contractante du Ministry of Diaspora Affairs, donc le ministère des Affaires de la diaspora. Et cette firme-là, Stoic, elle a créé un faux groupe activiste sur les réseaux sociaux, sur les plateformes de Meta et de X, qui s'appelait United Citizens for Canada.
Quel nom?
Et oui, qui publiait des contenus anti-islam sur les plateformes que je viens de nommer. Et c'est vraiment un exemple classique là, d'astroturfing, les faux comptes de faux Canadiens qui se font passer pour des citoyens inquiets de la prétendue islamisation du Canada, qui vont même jusqu'à commenter sous les publications des médias, dont la CBC, Radio-Canada, pour interpeller les journalistes et essayer de faire mousser la popularité de leurs publications. Donc, ils ont aussi utilisé l'intelligence artificielle pour créer ces comptes-là. C'était aussi, dans certains cas, des comptes qui avaient été utilisés pour d'autres campagnes qui ont été réactivées pour faire un peu du grabuge comme ça sur les réseaux sociaux en se faisant passer pour des citoyens canadiens alors que c'était une firme israélienne qui était derrière tout ça. Donc ça, c'était en 2024, mais on a eu aussi d'autres campagnes ou tentatives de campagnes de manipulation de l'information d'Israël au Canada en 2025 aussi.
Oui, je pense que c'est comme une idée reçue souvent sur les tentatives d'ingérence, que c'est comme tout le monde se fait influencer par ça, puis l'opinion des gens est comme façonnée par la Russie ou tout ça. Je pense que c'est comme la réalité, c'est que c'est constant, ils essayent de faire toutes sortes de choses, puis s'il y a une de leurs tentatives qui réussit, c'est là que... Il suffit qu'une chose pogne, qu'une personne en parle, comme Tommy Robinson dont tu parlais, pour que ce soit efficace. Mais dans bien des cas, c'est comme personne ne le voit, ça ne marche pas. C'est pour minimiser l'importance de ces choses-là, mais c'est comme... Je pense que l'idée souvent qu'on se fait de ça est déformée peut-être.
En tout cas. Quoi, c'est l'idée, c'est de mettre beaucoup de lignes à l'eau en espérant qu'il y en a une qui... Ou on meurt à l'hameçon. C'est un peu ça l'idée?
Ou aussi de créer un climat ambiant, de chaos. C'est pas parce que la publication en question n'a pas des millions de views, que ça ne fonctionne pas. C'est juste au compte-gouttes, quand tu te promènes sur les réseaux sociaux, tu vois tout le temps des commentaires qui parlent de certains sujets, puis ça donne l'impression qu'il y a comme un consensus ou que l'atmosphère est empoisonnée par ce débat-là. Donc, des fois, c'est aussi ça, là, c'est de l'ingénierie sociale quasiment, d'essayer de créer une impression globale plutôt que des pièces d'information ou de désinformation qui vont frapper l'imaginaire. D'ailleurs, tu as utilisé le mot astroturfing. expression francophone, c'est pas approuvé par l'OQLF à ma connaissance.
Approuvé par les décrypteurs.
Similitantisme.
Exact.
Similitantisme, ok, oui. J'apprécie.
Nicolas, il y a une petite...
Okay. Le premier endroit où ce mot-là est apparu dans l'histoire de la langue française, c'est dans un article que j'ai écrit pour le journal Métro. Et l'UQAM a commencé à l'utiliser, similitantisme.
Ah oui? Ah, mais là, il donc,
Donc,
je pense que j'ai dit, Jeff, c'est vraiment excellent.
Non, mais Nicolas, t'aurais pu avoir une contre-proposition.
Non, j'en ai pas. Pour vrai, c'est bon.
Êtes-vous équipe Nicolas ou équipe
Équipe, c'est excellent. Équipe, c'est excellent. Écoute, mais juste pour faire un peu de pouce sur ce que tu as dit, on avait parlé de la supposée opération psychologique pour le groupe Geese il y a quelques semaines.
Oui.
Puis la firme qui menait ces opérations d'influence pour que les gens trouvent ce groupe-là, ce groupe musical-là bon. Là. En tout cas, ils voulaient façonner l'opinion des gens sur le groupe. Dans l'entrevue que donnait le fondateur de la firme qui faisait ça, il disait que les opinions des gens se forment dans les commentaires TikTok. C'était ça sa philosophie. Puis je suis quand même d'accord avec ça. C'est pas quelque chose de tangible, c'est pas quelque chose qu'on peut mesurer, mais souvent c'est comme c'est des vibes, tu sais, des vibes dans les sections de commentaires auxquelles les gens adhèrent.
Mais ça, j'ai tendance à faire ça moi. Des fois, quand je comprends pas vraiment une publication, je suis comme qu'est-ce que ça veut dire? Je regarde les commentaires. Puis je sais que t'sais, je devrais faire ma propre opinion, mais ça va tellement vite sur les réseaux sociaux que t'es comme... Je me dis, je vais regarder les commentaires, puis là, ça va me donner une idée. Je sais pas, ça m'aide, on dirait, à me faire ma propre opinion sur un truc, là, des fois. Un truc, tu sais, qui n'est pas pertinent à mon travail, là, comme justement, est-ce que... J'ai dit pour me protéger, tu sais.
Non, mais est-ce que tu fais ta propre opinion ou tu te fais influencer?
Mais est-ce qu'on se fait tous pas influencer dans un sens?
Est-ce que t'aimes le band Geese?
Je l'ai écouté. Puis, j'aime pas ça.
Non, ben, voilà qui dit, prise chaude.
Ça, c'est ma propre opinion que je me suis faite toute seule.
Mais la voix du gars est gossante un peu, hein. C'est comme.
C'est trop siripeux. On dirait, t'as des crêpes, puis ils mettent tellement de sirop dessus.
Avez-vous vu leur cover de American Idiot de Green Day?
Non.
Allez voir ça.
C'est bon?
C'est tout ce que je dis.
OK.
Mais t'es.
Bon ou mauvais, c'est de l'art.
Ouais, ça, on peut dire ça tout le temps, mais allez-y avec vos propres commentaires.
C'est les dernières secondes de la saison, hein, les amis.
C'est ça, ça finit là?
Non, parce que là, il ne faut pas l'oublier, en toile de fond, en tout cas, s'il y en a un qui ne l'oublie pas, c'est bien moi. Il y a une Coupe du Monde qui se joue en ce moment.
True.
Je pense que j'ai manqué un ou deux matchs depuis le début.
Tes heures de travail?
Non, mais il y a des fois où je regarde moins assidûment.
Intéressante confession en onde.
Ton écran de droite sur ton ordinateur.
Tu sais, Jeff, quand tu dis qu'il y en a qui, dont l'objectif, c'est simplement de semer le chaos, la zizanie, non? Celui à ma droite, là.
Okay, là, tu vas te faire accuser d'être passif-agressif.
Non,
là,
non, mais c'est ça.
Pose des questions, c'est ma job.
Ah ouais, c'est ta job. Et puis, c'est notre job d'y répondre. Mais tu sais, c'est que de l'amour. Soyez rassurés.
C'est toujours du love.
C'est toujours du love. Et du gros love, comme dirait l'autre. Alors, donc, revenons à la Coupe du Monde. Revenons sur notre... fil narratif.
Je prends pour Haïti.
Toi, tu prends pour Haïti?
Oui, let's go Haïti.
Go Haïti.
Le Canada.
Le Grenadier. Mm. Le Canada, pourquoi pas.
Puis j'ai arrêté de te dérailler, excuse.
Non, tu me dérailles pas. Man. tu parles avec ton cœur, parce que t'as raison, on dirait peut-être autre chose. Nicolas se remet pas du fait que l'Italie est encore une fois disqualifiée pour une troisième Coupe du Monde d'affilée. C'est ça qui arrive. Hein?
République dominicaine, sont-ils là?
OK, mais la République dominicaine, c'est le baseball.
Qui a mieux performé qu'eux au baseball?
Ouais, mais
l'Italie.
Ouais, mais l'Italie, c'est une erreur de parcours, là. C'est une anomalie.
Veni Pasquantino, mon boy.
OK. On va y arriver à la Coupe du Monde, les amis, mais on ne veut pas vous parler du sport en tant que tel. Bonne chance à tous ceux qui font partie de ce marathon sportif de 48 équipes. On verra bien qui sera sacré champion. Mais ce qui nous intéresse, ce sont les fraudes qui s'opèrent en ce moment sur le dos, si on veut, de cette Coupe du Monde qui est en sorte un terreau très fertile. Et les fraudeurs le savent, les fraudeurs ont flairé l'affaire et les fraudeurs s'activent en ce moment, Fanny.
Oui, c'est le Centre canadien pour la cybersécurité qui a publié une page assez intéressante là-dessus. Je vous recommande d'aller regarder. Là. Mm-hmm. C'est une page gouvernementale. Mais
on mettra le lien. Donc,
Il y a beaucoup d'informations intéressantes sur le genre d'arnaques qui peuvent arriver, mais qui arrivent en fait pendant la Coupe du Monde. Parce que on le sait, les événements mondiaux comme la Coupe du Monde sont très propices pour ce genre d'arnaques, pour des arnaques à l'investissement, les arnaques à la crypto, toutes sortes d'arnaques qui se trament, qui vont surfer sur la popularité d'un événement aussi populaire, justement, que la Coupe du Monde. Et donc, les fraudeurs utilisent beaucoup des leurres qui sont liées à l'événement, comme des rabais de voyage, des accès exclusifs à la diffusion en direct ou des occasions de paris sportifs, par exemple. Puis, ce qu'ils vont faire, les fraudeurs, c'est qu'ils vont vraiment inciter les victimes à interagir avec leurs messages d'hameçonnage qui peuvent prendre plusieurs formes, comme des applications mobiles, des publicités puis des sites web malveillants. Ça fait plusieurs années qu'on voit, par exemple, un hyper-trucage de Cristiano Ronaldo. Est-ce qu'il joue encore?
Oui, ça, 41 ans, c'est le plus vieux à jouer à la Coupe du Monde.
Je me disais, ça fait longtemps que j'entends ce
nom-là. Oui, mais ça va pas super bien. Match nul l'autre fois, puis il a mal joué. Puis c'est de sa faute.
Dommage.
Ben, moi, j'ai pas pitié, en tout cas.
Il est utilisé par son image est utilisé par les fraudeurs qui font des hyper-trucages de Cristiano Ronaldo où ce que lui, il va, dans son hyper-trucage, dire des instructions étape par étape pour avoir des bitcoins gratuits.
Bien sûr.
C'est
classique
le genre
Ronaldo,
de fraude.
Classique Ronaldo,
mais je pense qu'il fait en plus vie de la promotion de coins, de
crypto-monnaies. Il fait classique Ronaldo pour de vrai.
Oui,
okay.
Dans le football, il y a beaucoup de compagnies de crypto là, qui achètent des écussons sur les jerseys des joueurs, puis il y a aussi des publicités de crypto pendant les matchs. Donc, tu sais,
ça brouille les pistes. Là. C'est super pour les fraudeurs, en fait, qui, eux, vont réutiliser l'image de ces joueurs-là. Si vous êtes victime de ce genre d'arnaque, ben, vos informations vont être volées sur les fausses plateformes de crypto-monnaie où est-ce que vous allez entrer votre code Ronaldo 10 là, ou quelque chose comme ça. Donc, non seulement on va voler votre dépôt de sécurité de Bitcoin, mais on va aussi voler vos informations personnelles. Puis, qu'est-ce qui se passe beaucoup, c'est que les fraudeurs, ils vont souvent mettre leur leurre sur des plateformes grand public comme Facebook ou Instagram, mais ils vont encourager les gens à obtenir leurs gains, entre guillemets, sur des plateformes qui sont moins modérées, comme Telegram ou Discord. Et de cette manière-là, ben, leur fraude a plus de chances de fonctionner, a plus de chances de ne pas être repérée sur les plateformes comme Telegram, même si on sait qu'il y a beaucoup de fraudes, évidemment, qui demeurent et qui persistent sur les sites plus grand public comme Facebook ou Instagram. Et ce qu'on voit aussi beaucoup, c'est une infrastructure, en fait, qui est faite par les groupes cybercriminels ou les groupes de fraudeurs en ligne qui existe depuis janvier 2026. Entre autres, il y a une opération à très grande échelle de sites, de faux sites, là, de billets de la Coupe du Monde qui sont créés par intelligence artificielle. Et c'est toute cette infrastructure de sites web qui copie la facture visuelle de la FIFA, mais vraiment pixel par pixel. Là. C'est exactement la même chose. Parce que, justement, ça a été mis à l'échelle, ça a été créé par l'intelligence artificielle. Et donc, ces sites-là sont totalement identiques aux vrais sites. Et les processus de paiement ont une apparence légitime. Mais véritablement, qu'est-ce que c'est? C'est des genres de honeypots ou des pots de miel qui permettent aux fraudeurs qui contrôlent ces plateformes-là de voler des informations sensibles qui sont entrées, comme des numéros de carte de crédit, des codes de sécurité, tout ça, tout en maintenant une apparence légitime. Et aussi, il y a cette compagnie américaine de cybersécurité, Arctic Wolf, qui dit que depuis janvier 2026, ils ont observé l'apparition de plus de 10 000 domaines liés à la Coupe du Monde, à raison d'environ 2000. Oui. Ils ne sont pas tous malveillants, mais ça montre quand même que l'IA générative produit désormais des sites, des contenus et même des applications, et que l'automatisation des attaques a atteint un nouveau niveau. Et c'est aussi des infrastructures qui sont faites à l'avance et qui sont prêtes à être mises en marche juste au bon moment. Comme par exemple, tu t'inscris sur un site de streaming pour la Coupe du Monde en février, et là, seulement 2 minutes avant le match, ils vont t'envoyer un lien que tu peux ouvrir sur une autre plateforme. Et ils vont profiter justement de l'excitation du moment pour contourner, dans le fond, ta vigilance face à ça. Parce que c'est aussi beaucoup des arnaques qui se font sur téléphone mobile. Et c'est prouvé que les gens font beaucoup moins attention aux liens qu'ils cliquent sur le téléphone mobile versus sur leur ordinateur. Donc, faites attention aux liens sur les téléphones mobiles qui vous promettent des choses trop belles pour être vraies, mais aussi qui vous font passer peut-être justement de Facebook à Discord d'Instagram à Telegram. Donc, chose à garder en tête aussi. Si on vous demande d'inscrire des informations personnelles sur une page web, que ce soit sur votre ordinateur ou votre téléphone, c'est important aussi si vous avez des doutes, de vérifier cette page web-là, de vérifier chaque lettre là, de l'URL avant de rentrer vos informations personnelles, surtout des informations comme sensibles comme la carte de crédit, le numéro de carte de crédit, par exemple.
Avant même de débuter à rentrer les informations, parce qu'on sait qui peuvent voir en temps réel ce que tu rentres. Si tu rentres ton numéro de carte de crédit et tu dis « Oh non, c'est une arnaque, tu l'effaces, il est trop tard. » Donc, avant même d'entrer les infos. Là.
Voilà qui est dit. De sages conseils, gracieuseté, Fanny Tan. Et ça fera partie, évidemment, de la fraude en ligne, des domaines auxquels tu t'intéresseras au balado et à l'émission des décrypteurs. Je le rappelle, Fanny Tan, décrypteuse officiellement. Elle a sa tasse. Elle est belle.
Très belle.
As-tu hâte de boire dedans?
Absolument. Mais j'avais même pensé faire le... tantôt.
Ouais, tantôt. On va nettoyer un petit peu avant, n'est-ce pas?
Ah, oh, c'est vrai qu'elle sort d'une boîte, mais...
Ouais, voilà. C'est ça. Hey, on avait des petites choses pour faire sourire aussi, en toute fin. Ouais, toujours en lien avec la Coupe
du Monde. Ouais, un article quand même assez amusante de The Atlantic, parce qu'il y a plein de contenus virals sur TikTok, sur les plateformes de vidéos courtes comme TikTok puis Instagram Reels en ce moment. D'Européens qui viennent aux États-Unis pour aller voir la Coupe du Monde puis qui s'émerveillent devant la culture américaine.
Wow.
Qui voient les fameuses stations-service Buc-ee's. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, là, mais c'est
massif,
absolument immense. Ouais. On parle de stations-service avec une centaine de pompes.
Wow.
Puis que, genre, tu sais, c'est un restaurant, épicerie, tout combiné, tu sais, de l'excès typique américain. Mais ce que The Atlantic fait remarquer, c'est qu'il y a beaucoup de ces comptes-là que c'est inauthentique, que c'est okay. pas vraiment des gens qui s'émerveillent. Ils sautent juste sur le trend. Pour aller chercher de l'attention. Puis il donne l'exemple d'une influenceuse suédoise qui débarque, puis que là, elle s'émerveille devant la sauce ranch, donc la vinaigrette ranch, elle est comme « Wow, je connais pas ça ». Dans le fond, la fille a fait la promotion de son OnlyFans avec ces vidéos-là. Mm. Donc, tu sais, c'est comme... C'est pas vraiment une personne de tous les jours qui s'émerveille devant les États-Unis. Donc,
mais il y en a des vrais,
par contre. Il y en a des vrais, oui, parce que le trend est parti avec un Allemand, Freddy, là, qui est débarqué à la Coupe du Monde, qui s'émerveillait devant justement Buc-ee's et tout ça. Puis là, il y a une couverture médiatique locale aux États-Unis. Il y a même, je pense que c'est à Austin ou une ville au Texas qui l'ont accueilli à bras ouverts, le maire de la ville l'a invité à visiter. Donc, tu sais, lui, ça semble authentique, mais là, il y a des gens qui essaient de copier cette tactique-là pour aller chercher l'attention sur les réseaux sociaux. Donc, encore une fois, les gens qui cherchent l'attention ruinent tout.
On joue sur la fibre patriotique. Ouais.
Oui, mais... Je voulais aussi terminer, parce qu'on sait que Fanny, c'est une immense, immense...
Power user. Hey, deux fois immense.
De LinkedIn.
Elle aime LinkedIn, comme disaient les Français.
Ah oui?
LinkedIn.
Okay.
Je m'adresse à Thomas.
Oh, je te crois.
Donc, histoire de LinkedIn, oui, c'est juste le joueur Roberto Lopez de Cap-Vert qui a eu une...
Ben, Cap-Vert qui a fait match nul contre l'Espagne, championne d'Europe, 1-1.
Puis qui a fait en sorte que quelqu'un a perdu $1 million sur Parley Market. On ne rentrera pas là-dedans, mais il dit qu'il a reçu un message, il y a un certain temps, il y a un message en portugais sur LinkedIn qui lui l'invitait à venir jouer pour l'équipe nationale de Cap-Vert, puis il a juste... Dans l'article, c'est écrit « Il a fait ce que plusieurs personnes font quand ils reçoivent un message non sollicité sur LinkedIn. Il l'a ignoré puis il pensait que c'était du spam. » Mais c'était un vrai message, finalement. C'était l'équipe nationale qui a essayé de le recruter sur LinkedIn. Donc,
Vous voyez le genre de belles nouvelles qu'on peut avoir à travers LinkedIn?
C'est vrai que c'est bon. Mais c'est quoi l'affaire de LinkedIn que tu reçois des messages de c'est comme un représentant de LinkedIn?
Moi ça m'arrive régulièrement.
C'est des publicités. Là.
Je les lis jamais.
Ouais. C'est whack, là.
C'est wack.
Toi, tu ouvres ça?
Non, mais c'est comme... Quand tu penses que tu as un message sur LinkedIn, c'est toujours un faux message. C'est comme, « Hey, salut, je suis de LinkedIn, tu veux-tu t'inscrire? » C'est comme, non.
Ouais. En tout cas. Moi, j'ai souvent des messages de compagnies d'assurance qui m'écrivent sur LinkedIn. Mais je regarde tout le temps, quand même, parce qu'on sait jamais quand est-ce qu'on peut avoir des belles nouvelles sur LinkedIn.
C'est une boîte à surprise, hein? Ben on sait jamais qu'est-ce qu'on peut trouver.
Ajoutez Fanny Tan sur LinkedIn, les amis.
Il va y avoir une pluie de nouvelles adhésions. Mais au moment de mettre en ligne ce balado, je présume que Fanny aura envoyé sa publication qui officialise son ajout à l'équipe des décrypteurs. On lui a déroulé le tapis rouge à notre chère nouvelle collègue officiellement, on va le dire, Fanny Tan. Très heureux de la savoir parmi nous. Bienvenue dans la famille. Je le dis encore officiellement. Un petit mot, quand même, je tiens à le faire parce qu'on parle d'intelligence artificielle souvent, épisode après épisode. On vous a beaucoup parlé des relations intimes que certaines personnes développent avec l'intelligence artificielle. Un petit mot sur un balado de Radio-Canada qui est mis en ligne en ce moment sur la plateforme Radio-Canada Audio dans les bras de l'IA. On suit les aventures de Yannick, Anne, Chantal, Étienne, des personnes qui, chacune à leur façon, ont développé, ont tissé des liens très serrés avec des robots conversationnels. Des fois, ça se termine bien, des fois, ça se termine mal, mais c'est vraiment dans leur intimité, sans jugement, qu'on décrit ce qu'ils ont vécu. Tout ça se conclut avec une table ronde d'experts sur toute cette question-là. C'est à voir dans les bras de... C'est à écouter dans les bras de l'IA sur la plateforme Radio-Canada Audio. Bravo à donc nos deux collègues qui ont travaillé là-dessus, Alexandra Viau et la journaliste aussi qui l'accompagne, Victoria. Chapeau à vous pour ce travail. Voilà qui est dit. Là, c'est le moment de conclure la saison, les amis.
Ça c'est va aller, triste.
Ça ben, va? Un peu triste.
Ouais, quand même.
Nicolas, je sens ton spleen.
Vraiment? Ben, c'est toujours le fun de venir ici à chaque semaine. Donc, je ne sais pas ce que je vais faire, mais je vais passer à travers l'été d'une autre manière, je suppose.
Hi, ça va pas bien.
Je vis pour ça.
On va plus soutenir aux employés. Toi, Jeff, ça va aller? Tu...
Oui, mais on va revenir en grande forme. On va travailler sur des choses vraiment intéressantes cet été, puis ça s'en vient, ça va être cool. Mais ça va manquer un peu cet été, quand même.
Vous allez nous manquer, ça c'est sûr et certain. Et puis Fanny sera là aux premières loges, à la ligne de départ en septembre, début septembre. Et puis je peux le dire officiellement, avant qu'on se quitte, on revient en septembre avec le balado qui sera exceptionnellement également à la télé pour la durée du mois de septembre jusqu'à temps que l'émission des Décrypteurs soit officiellement en onde pour une autre saison qui s'amorce avec notre merveilleuse équipe et notre merveilleux public. Merci d'avoir été avec nous épisode après épisode, semaine après semaine. Jeff, Nicolas, Fanny, merci beaucoup. Merci à vous. On vous aime. Salut mon Louchard. Prends soin de toi. Alexis et Martine en régie. Merci à vous. Allez, salut.